RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Il est 3h à Jakarta, 20h en temps universel. Depuis Jakarta, RRI World Service, la voix de l'Indonésie avec des programmes en français.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie, présente le journal, les informations actuelles et les divertissements de l'Indonésie.
Vous pouvez écouter nos émissions sur les ondes courtes de 95-200 kHz.
Vous pouvez également écouter nos émissions sur www.voinews.id/french.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Informing, connecting, dignifying.
Bonjour, chers amis, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Comme d'habitude, nous allons commencer notre émission par le journal suivi les infos de l'Indonésie. Et ensuite, nous allons également présenter l'histoire d'aujourd'hui et mon Indonésie. La revue suivante, magazine culturel et l'Indonésie en couleur. Avant de terminer cette émission, vous allez écouter des chansons indonésiennes. Voilà notre programme pour ce soir. Écoutons maintenant le journal suivi les infos de l'Indonésie.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie avec le journal.
Bonsoir, chers amis, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le journal et on commence avec les titres. Le Parlement propose KPK de pouvoir être intégré avec le système de prévention. L'Indonésie demande instamment la création de l'instrument d'extradition de l'ASEAN. La déréglementation devient la clé du succès de la croissance touristique de l'Indonésie. Le ministre de la PPPA lancera la régence décente pour les enfants pour une solution de malnutrition en Papouasie. Cher ami, nous présente maintenant le journal complet. Le coût d'application de la Commission d'éradication de la corruption ou KPK dans la lutte contre la corruption est très cher. Par conséquent, la commission devrait être fusionnée avec une autre commission de sorte que le système de la performance peut être mis en œuvre plus efficace. C'est ce qu'a déclaré le vice-président du Parlement, M. Fahri Hamzah, à Jakarta, vendredi aux médias.
Sebaiknya kita segera mengintegrasikan KPK dengan sistem.
Il vaut mieux que nous pouvons intégrer la commission d'éradication de la corruption ou KPK avec un système de prévention. L'application de la loi est faite par la police et procureur. Notre système de prévention relatif est la prévention qui a le pouvoir, notamment dans le domaine de service. Je propose que le système d'arrangement est comme la Corée du Sud. La KPK en Corée du Sud a fait seulement 8 ans. Il reste et intégré avec Ombudsman, si bien qu'il a des succursales partout en Indonésie. M. Fahri Hamzah propose également que KPK peut être intégré avec la Commission nationale des droits de l'homme et l'Agence de la protection des témoignants et des victimes, de sorte qu'il devient comme une commission de plainte. Il a dit qu'il y avait administration publique insatisfaisante au début. Il peut faire un rapport à cette commission. Le directeur de la politique étrangère et de la sécurité du ministère des Affaires étrangères, M. Chandra Widyayuda, lors de la conférence de presse qui s'est tenue jeudi 1er février à Jakarta, a déclaré que la mise en place d'instruments régionaux d'extradition serait l'une des questions que l'Indonésie devrait soumettre à la première réunion des ministres des Affaires étrangères de l'ASEAN à Singapour les 4 et 6 février 2018. Selon lui, la mise en place de tels instruments est très importante, non seulement pour l'Indonésie, mais aussi pour la zone de l'Asie du Sud-Est.
Dans le contexte de la penyanderaan, Tentunya Ibu Menlu juga tadi menyampaikan kekhawatiran, concernnya beliau.
Sesi etem potong non seulement pour l'Indonésie, mais aussi pour notre région pour répondre aux défis croissants liés à la criminalité transnationale ainsi que les questions transnationales. Techniquement, cela a été discuté actuellement. Il y a plusieurs approches, y compris les tentatives de démarrage, d'abord en formant un modèle de loi. Selon Chandra, l'un des défis qui doit être fait face dans l'effort pour établir l'instrument extradition dans cette région est la loi différente détenue par chaque pays de l'ASEAN. Ainsi, la première réunion de ministres des Affaires étrangères de l'ASEAN devrait être le bon moment pour discuter plus intensément du défi. Vous écoutez le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. Le ministre du Tourisme, Arif Yahya, a déclaré qu'en 2017, le tourisme en Indonésie a augmenté de 22%. Lors d'une réunion du ministère de Commerce tenue à Jakarta jeudi, il a expliqué que le chiffre est trois fois plus élevé à la croissance du tourisme dans la région de l'ASEAN et dans le monde. La croissance du tourisme dans l'ASEAN a augmenté de 7% et la croissance mondiale de 6,4%. L'Indonésie devient le deuxième plus grand pays de croissance touristique dans l'ASEAN après le Vietnam avec une croissance de 25,2%. Le ministre Arif Yahya vise à ce que le tourisme devienne la plus grande source de devises étrangères en Indonésie. En 2016, le tourisme est devenu le deuxième plus gros bénéfice en devises après l'huile de palme brute. Il considère que la déréglementation est la clé de l'augmentation de la croissance touristique. Il y a trois grandes dérégulations qui ont été faites par le gouvernement dans l'augmentation de la croissance du tourisme.
Agar kita cepat lakukanlah deregulasi. Mau di pariwisata, mau di perdagangan.
Pour que nous soyons rapides, nous devons faire la déréglementation, que ce soit dans le tourisme, le commerce et l'investissement. Donc, faisons la déréglementation, mais sa philosophie, si dans le tourisme, c'est facile d'entrer en Indonésie. Rendre les gens faciles à entrer en Indonésie, les trois grands étaient en été sans visa. Le deuxième de voilier était facile à entrer. Les trois sont la croisière pour entrer facilement en Indonésie. Le ministre Arif Yahya a expliqué que pour faciliter l'entrée des touristes en Indonésie, ce ministère a accordé une exemption de visa pour 169 pays. En 2013, 15 pays ont obtenu l'exemption de visa. La révolution technologique à travers les affaires de l'agence de voyage en ligne contribue également à la croissance du tourisme en Indonésie. En 2018, le ministère du Tourisme cible 17 millions de touristes étrangers ou en hausse de 20%. Le gouvernement de l'Indonésie s'est forcé à lutter contre malnutrition dans l'urgence d'asthmate en Papouasie. Les changements dans la structure de vie communautaire en Papouasie ont contribué à affecter le problème de la malnutrition. En général, les habitants de Papouasie dépendent de l'offre de riz du gouvernement. Cela a été déclaré par le ministre de l'Autonomisation des femmes et de la protection de l'enfance, Mme Yohana Yembise, aux médias après la réunion de consultation entre le gouvernement et le Parlement à l'édifice du Parlement Jakarta jeudi. Un autre facteur contribuant au problème de la malnutrition dans l'agence d'Asmat est la résidence des tribus Asmat qui est dans Marrakech, éloignée et difficile à atteindre. Par conséquent, le ministère de l'Autonomisation des femmes et de la protection de l'enfance lancera le programme de régence des sangs pour les enfants. Nous pouvons entrer en particulier dans la déclaration de la régence des sangs pour les enfants, où les droits des enfants doivent être veillés pour la croissance des enfants, y compris une protection spéciale pour les enfants là-bas. La malnutrition des enfants scolarisés ou non sont inclus dans 24 indicateurs au-dessous dans la régence des sangs pour les enfants. Nous lançons la régence d'asmat vers la régence des sangs pour les enfants qui impliquera les chefs traditionnels, les chefs religieux, y compris l'organisation des dispositifs régionaux ainsi que les communautés elles-mêmes qui doivent soutenir ce programme. La ministre Johanna a également expliqué si le programme de la régence des sangs pour les enfants se déroule selon le plan et le mécanisme existant, il remplira le droit de l'enfant, entre autres certificats de naissance, éducation et services de santé. Si ces droits ne sont pas remplis, sera aurait violé la convention relative aux droits de l'enfant. Chers amis, c'était le journal de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Les nouvelles de l'Indonésie. Les informations uniques et intéressantes de plusieurs régions d'Indonésie.
Chers amis, nous continuons notre émission avec les enfants de l'Indonésie, un programme qui présente des diverses infos intéressantes des divers coins d'Indonésie dans une semaine. La première info vient de Gunung Kidul, Yogyakarta. Le gouvernement de la résidence Gunung Kidul, Yogyakarta construit embung batu agur au village Gedang Rejo, le district Karangmoyo, afin de faire face aux pénuries d'eau pendant la saison sèche et stocker l'eau pendant la saison des pluies. Le directeur du Bureau de l'autonomisation des femmes, de la protection de l'enfance et de la planification familiale, autonomisation communautaire et villageoise de Gunung Kidul, Sujoko, a déclaré mercredi que le budget de développement de Embung Batur Agung vient du ministère indonésien du village, du développement des régions défavorisées et de la transmigration. Selon lui, ce réservoir sert à recevoir l'eau, puis utilisé comme une source supplémentaire d'irrigation pour la culture de grande valeur des produits agricoles pendant la saison sèche ou lorsque les précipitations de pluie diminuent. Le gouvernement local continue d'encourager la créativité des personnes dans le secteur agricole afin de faire réussite de l'autosuffisance et le programme de sécurité alimentaire au niveau national. L'existence d'un réservoir est stratégique pour l'agriculture et le besoin quotidien en nous. Les étangs peuvent être utilisés pour contenir l'excès d'eau et une source d'eau d'irrigation en saison sèche. Sujoko espère que la production de embung est la solution des agriculteurs pendant la saison sèche et la saison des pluies et peut augmenter la productivité des cultures et le revenu des agriculteurs pour encourager la croissance de l'économie rurale et améliorer le bien-être de la communauté. Ensuite, l'info de Manokwari, Papouasie. Le gouvernement va construire un nouvel aéroport au district Misol, au district Raja Ampat, afin d'améliorer l'accessibilité du transport aérien vers et depuis la zone. Le gouverneur de la Papouasie-Occidentale, Domingus Mandachan, a déclaré mercredi à Manokwari que le gouvernement local avait commencé le processus de maturation des terres dans la région. Domingus, avec un certain nombre de régions, ont assisté à une réunion avec le ministre des Transports à Jakarta. La réunion a discuté des plans de développement de l'aéroport de Raja Ampat, Manokwari, Fakfak et Manokwari du Sud. Bien que le nouvel aéroport soit construit à Misol, l'aéroport Marinda sera toujours en mesure de servir de petits vols. Le vol des grands avions sera dirigé vers Misol. La construction d'un aéroport majeur à Raja Ampat est destinée à soutenir les programmes touristiques à cette région. La dernière info vient de Bukit Tinggi, Sumatra Ouest. Les habitants de la ville Bukit Tinggi se sont alignés d'utiliser des jumelles pour capturer une éclipse lunaire qui a lieu mercredi soir. Les jumelles sont l'équipement fourni par l'Agence de météorologie, climatologie et de géophysique, ou BMKG, de Padang Panjang pour observer les événements naturels dans la cour de Jamgadang, Bukit Tinggi. Les résidents ont profité de l'occasion pour prendre des photos en utilisant un téléphone portable à l'aide des jumelles. En plus des jumelles, BMKG fournit également un écran dans Foku pour que le processus de l'éclipse lunaire puisse être vu par les personnes qui ont encombré ce site touristique. Le chef de la station de géophysique de Padang Panjang, Rahmat Riono, a déclaré que l'observation de l'éclipse lunaire totale dans la cour de Jamgadang est également un moyen d'éducation des citoyens sur les phénomènes naturels. Le processus d'éclipse a commencé à 17h49 heure d'Indonésie Ouest, à laquelle s'est produit le premier contact entre la Lune et l'ombre de la Terre. Mais ce processus ne peut pas être vu dans la région de Sumatra Ouest parce que la Lune se lève à 18h28. Serviteur, c'était les enfants de l'Indonésie.
Les fêtes historiques que nous présentons à travers aujourd'hui dans l'histoire.
Bonsoir à tous, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici l'histoire d'aujourd'hui. Le 3 février 1944, les troupes américaines ont envahi les îles Marshall. Les îles Marshall étaient auparavant sous domination japonaise depuis 1914, à l'époque de la Première Guerre mondiale. Le traité de Versailles qui a mis fin à la Première Guerre mondiale a décidé que les îles qui étaient initialement occupées par l'Allemagne, y compris les îles Marshall, Carolina et Mariana, devraient être remises au Japon sous la supervision de la Ligue des Nations. Cependant, le Japon a quitté la Ligue des Nations en 1933 et fait des îles du Pacifique une base militaire. Au cours de la Seconde Guerre mondiale, ces îles devenaient la cible des forces alliées et le 3 février 1944, les îles Marshall étaient tombées aux États-Unis qui ont tué environ 400 soldats américains. Le 3 février 1984, la navette spatiale Challenger a été lancée dans la deuxième mission spatiale. La navette spatiale est une navette américaine utilisée dans des missions spatiales habitées. La navette spatiale n'est pas comme les autres vaisseaux spatiaux. Les corps principaux de la navette peuvent être réutilisés ultérieurement. Ce type d'avion appartient à la NASA, l'agence spatiale américaine, en plusieurs types, avait fait 5 pièces mais maintenant seulement 3. L'avion vole verticalement et porte habituellement 3 jusqu'à 5 astronautes. Lorsque la mission sera terminée, l'avion enflammera ses propres propulseurs pour retourner dans l'atmosphère terrestre. Le plongeur sera atteint lorsque l'avion est dans l'atmosphère terrestre et l'avion flottera pendant son voyage jusqu'à ce qu'il atteigne la surface de la Terre. Le 3 février 2007, le bombardement du marché à Bagdad. Cet incident faisait exploser un camion piégé dans un marché très fréquenté de Bagdad. L'attentat suicide a tué 135 personnes et blessé 339 autres. La bombe, estimée à environ 1 tonne, a détruit 10 bâtiments et étals de marché dans les zones musulmanes chiites. Le moment de l'attentat a été conçu pour provoquer le plus de vie possible, car il a explosé peu de temps avant l'imposition du couvre-feu, dans lequel les gens voulaient acheter de la nourriture avant de rentrer chez eux. Chers amis, c'était l'histoire d'aujourd'hui de la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
Indonesiaku, mon Indonésie présente l'Indonésie dans les domaines de l'économie, de la politique étrangère, le Pancasila, des sports et de l'environnement.
Chers auditeurs, merci de votre fidélité d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. C'est temps maintenant pour nous de vous présenter mon Indonésie et en pour le titre. Cette année, le ministère du Commerce augmente des permis de commerce en ligne. Le ministère du Commerce prévoit d'augmenter le nombre de licences commerciales pouvant être servies en ligne. Sur les 38 autorisations en ligne en 2017, 55 seront augmentées d'être 55 autorisations dans le réseau utilisant des signatures numériques. L'autorisation dans un réseau accessible se compose de 4 catégories, à savoir les licences de commerce extérieur, le commerce intérieur, la normalisation et la protection des consommateurs, ainsi que le commerce à thème des produits de base. Lors d'une conférence de presse à l'hôtel Borobudur Jakarta, mercredi, le ministre du Commerce, Enggar Tias Tolukita, a déclaré que le gouvernement prévoyait cette année d'appliquer le paiement électronique à la délivrance du certificat d'origine ou SKA. Les SKA sont émis pour les hommes d'affaires indonésiens qui exporteront leurs produits à l'étranger. En outre, le ministère du Commerce vise cette année à finaliser la réglementation gouvernementale sur les transactions commerciales par des systèmes électroniques. Le ministre Enggar Tias Tolukita a déclaré que le projet de règlement du gouvernement sera rédigé pour l'utilisation des applications qui, par exemple, relient les agriculteurs aux commerçants. Ainsi, les agriculteurs peuvent commercialiser leurs produits directement aux consommateurs sans passer par une longue chaîne d'approvisionnement. D'autre part, le gouvernement a commencé à examiner les produits vendus dans les magasins en ligne et les marchés. Le but de l'examen est de déterminer si le produit vendu est classé comme domestique ou emporté. Le ministre du Commerce estime que des ventes en ligne poussant comme des champignons devraient être utilisées pour accroître le commerce de produits nationaux. Enggar Tias Tolukita veut que le commerce hors ligne et en ligne ait un niveau de terrain de jeu ou un effort similaire. Selon lui, les ventes en ligne devraient ouvrir le marché des produits des petites et moyennes entreprises. L'Indonésie n'est donc pas seulement un marché pour les produits étrangers. En plus de la suspicion sur l'approvisionnement de biens emportés plus que de la production nationale, Enggar Tias Tolukita évalue également l'entrée de marchandises en ligne vulnérables aux violations dans le cas des droits d'importation. Par conséquent, Enggar Tias Tolukita a souligné l'engagement du ministère du Commerce à mettre en synergie un certain nombre de ministères ou agences concernées tels que le ministère de la Coordination des Affaires économiques, le ministère des Finances et le ministère des Communications et des Technologies de l'Information. Le ministère du Commerce admet que le contrôle des marchandises importées est relativement difficile, étant donné que les marchandises échangées sont habituellement en petite quantité. Alors, maintenant, le ministère du Commerce rédige des règles pour resserrer les transactions et les sanctions en ligne. Le ministère du Commerce a également prévu de s'appuyer sur le rôle de la Direction générale de la protection des consommateurs et du commerce pour détecter les marchandises directement dans la maison. Chers auditeurs, c'était mon Indonésie.
Connaître la richesse de l'art, de la culture et du tourisme indonésien dans le programme Le Magazine Culturel, Pesona Indonesia.
Bonsoir, chers amis, merci d'être fidèles à la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici la rubrique Magazine Culturel. Aujourd'hui, nous allons parler de la cuisine typique de la province de Sulawesi du Sud. Assam Segar Paride. Et alors, restez-vous avec nous à RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission via www.voynews.id et aussi par les zones courtes. Chambrang, Kantan ou Honje est une sorte d'herbe qui a des noms différents dans toutes les régions d'Irlésie. À Medan, cette plante est connue sous le nom de Kinchung. Le peuple Minangkabau le connaît par son nom Sambuang. La communauté de Palopo, dans le sud-est de Sulawesi, la reconnaît sous le nom de Patikala. La couleur de Honje rougeâtre. Le tronc est rond, agrandi à la base. Kecombrang ou fleur Honje généralement est utilisé comme les ingrédients assaisonnements de différentes cuisines. À Japon Ouest, les boutons fleuraux sont souvent utilisés comme salade ou bouillis et mangés avec du sambal. Kecombrang est aussi peut être mélangé dans l'urap. Urap est une salade de légumes cuits à la vapeur mélangée avec de la noix de coco râpée, assaisonnée et épicée. On le trouve couramment dans la cuisine indonésienne, plus précisément la cuisine japonaise. Les gens de Palopo dans le sud de Sulawesi utilisent le kecombrang ou patikala comme l'épice pour leur cuisine appelée asam segar paridi. Donner un goût amé est la raison pour laquelle les gens utilisent patikala comme épice dans paridi. Paridi est une sorte de soupe de couleur jaune pâle. Cette cuisine utilise les protéines de poissons marins tels que chano, vibano, lamoro comme ingrédient principal. Paridi est cuit d'une manière très simple et les épices sont très minimalistes selon le piment et l'acide patikala. Lorsqu'il est mangé, l'arôme parfumé provient de l'utilisation de patikala. Il a un goût délicieux, un mélange d'agri et de frais. Paridi est mangé avec du riz et accompagné de sambal de jeune mangue. Le sambal et le piment pilés avec de la pâte de crevette ou du jus de citron. Mais il est plus spécial si on mange avec dange ou kapurung. Dange et kapurung est fait de sagu. En plus délicieux, cette cuisine est également bonne pour la santé parce que le principal ingrédient est le poisson. Paridi peut également réduire le cholestérol car il utilise aussi le kecombrang comme épice. Pour ceux d'entre vous qui sont intéressés à goûter asam segar paridi, vous pouvez visiter Palopo. Cette ville est située dans le nord de la province de Sulawesi du Sud. Il n'est pas difficile de trouver cette cuisine parce qu'il y a beaucoup de restaurants qui vendent paridi avec dange et kapurung. Le prix est relativement abordable, environ 17 000 rupiah jusqu'à 20 000 rupiah par portion et le prix de dange environ 3 000 jusqu'à 5 000 rupiah. Chers amis, c'était Magazine Culturel de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. Merci à tous et à demain.
L'Indonésie en couleur présente les informations sur les femmes, les jeunes et les réussites de l'Indonésie.
Chers amis, nous continuons notre émission avec l'Indonésie en couleur. Ce soir, nous vous introduisons la peinture sur verre. Le verre est l'un des médias de peinture rarement sélectionnés par les peintres. L'art de peinture sur verre est une peinture utilisant le verre comme un champ de dessin et le moyen de peindre utilise le principe à l'envers. La peinture commence par faire un motif, puis colorer le dos du verre en utilisant la peinture avec la composition de l'huile le moins possible. La peinture sur verre fournit une sensation visuelle intéressante et offre une vision différente de celle utilisée pour regarder d'autres médiums comme la toile. La peinture sur verre en Indonésie s'est développée depuis l'époque de Wali Songo qui répand l'islam à Java. Depuis le XVIIe siècle, l'art de la peinture sur verre est connu et développé à Cirebon. À cette époque, le dessin sur l'art de peindre le verre, il y a seulement de l'image de marionnette et de la calligraphie. Pendant ce temps, la peinture sur verre de Cirebon et la calligraphie, wayang sur les marionnettes et batik Cirebon. Il y a 42 types de reliques de calligraphie de Wali ou de Sunan, en particulier Sunan Gunung Jati. Ils ont tous des significations et des objectifs différents. L'un d'entre eux est Macan Ali en forme de l'écriture d'arabe de deux phrases Shahada. Cette calligraphie vise à encourager ou à motiver le propriétaire à toujours se souvenir d'Allah, le seul et unique Dieu. Le phénomène de peinture sur verre de Cirebon est l'œuvre d'art de nation qui doit être maintenue et transmise à la génération suivante. Pour populariser la peinture sur verre, quatre peintres sur verre de Bali, Ketut Santosa de Surabaya, Hadi Koco de Yogyakarta, Rina Kurniati et de Magelang Nugroho ont organisé une exposition de peinture sur verre. L'exposition intitulée « Dompteur de verre » s'est tenue à Tembi, Rumah Budaya, Yogyakarta, il y a plusieurs années. L'exposition présente 50 peintures sur verre des peintres. Quatre peintres s'efforcent de créer leur créativité. Le travail de quatre peintres est une image de la peinture de verre contemporaine indonésienne. Il présente le dernier développement de la peinture sur verre indonésie avec le conservateur Mike Susanto. L'atmosphère d'ouverture et de démocratisation du médium dans le développement des beaux-arts a ouvert des opportunités pour diverses percées dans la peinture sur verre. L'exposition de peinture sur verre, outre de devenir la dernière tranche du développement de la peinture sur verre, peut également être considéré comme faisant partie du développement de l'art contemporain indonésien. Beaucoup considèrent la peinture sur verre en Indonésie de décliner, mais aux mains des jeunes peintres, la peinture sur verre a évolué au-delà des conventions et des processus techniques en cours. Serviteur, c'était l'Indonésie en couleur pour ce soir.
Pelangi Nada, le magazine musical, vous présente les musiques et les chansons indonésiennes.
Vous écoutez toujours la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, merci d'être fidèles à notre antenne. Voici l'édition de magazine musical. Et aujourd'hui, nous allons vous présenter des musiques pop chantées par Al-Ghazali. Écoutez maintenant la première chanson intitulée Kurayu Bidadari ou en français Je séduis un ange. Bonne écoute.
Aku tertawan paras cantik rupawan tak jemu-jemu. Aku memandang ingin ku merayu, dengarkan aku berlagu. Baru aku mengerti artinya bidadari. Sejak di hari ini jumpa kamu di
La chanson intitulée « Kurayu Bidadari » ou « Je suis Dui » en a chanté par Al-Ghazali, accompagnée de la chanson « Par de l'amour à première vue ». Cette chanson est la première chanson interprétée en solo par Ahmad Al-Ghazali Kohler. Avant de devenir soliste, Al, qui est né le 1er septembre 1997, a débuté sa carrière musicale en 2009 avec Lucky Lucky, un groupe composé de lui et de ses deux plus jeunes frères, Al et Dul. Mais après avoir eu 17 ans, Al-Ghazali est finalement devenu soliste. Bon, chers amis, écoutons maintenant d'autres chansons intitulées Galau, toujours chantées par Al-Ghazali.
Itu benar memang Kenapa? Mau bilang apa sih? Bilang aja, gak apa-apa kok.
Bilang tidak ya. Bilang tidak ya.
Merci d'être fidèle à la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, vous êtes en train d'écouter notre programme musical chanté par Al Ghazali. Et c'était une chanson intitulée Galau, raconte de quelqu'un qui veut exprimer l'amour, mais il doute et a peur. Le succès est facilement atteint par Al Ghazali grâce à sa voix distinctive, semblable au style de son père, Ahmad Dhani, un musicien célèbre. En plus du succès dans la musique, ce garçon a également reçu de nombreuses offres pour jouer dans diverses publicités et sur grand écran. Mais malheureusement, en octobre 2017, il a annoncé qu'il ne chanterait plus. Il veut se concentrer sur le développement de sa carrière en tant que compositeur et disc-jockey. Bon, chers amis, voilà l'édition du magazine musical pour aujourd'hui avec un chanteur Al Ghazali. Nous allons présenter les deux dernières chansons intitulées Amnésie et Dites à ton petit ami d'abord. Tous les deux sont toujours chantés par Al Ghazali. Merci à tous et à bientôt.
Percaya ini telah terjadi. Kau tersenyum mesra dan genggam tangannya. Siapakah dia yang bersamamu? Bukankah diriku ini masih kekasihmu? Ku hampiri, ku tanya apa yang terjadi. Sedangkan kau apa kau amnesia? Apa kau... salah. Apa kau amnesia? Apa kau amnesia? Terus kerutkan kening dan geleng kepala. Apa kau amnesia? Apa kau amnesia? Terus kerutkan kening dan geleng kepala. Apa kau amnesia? Apa kau amnesia? Dan telaga mengingat tak kunjung.
Les émissions de La Voix de l'Indonésie peuvent également être écoutées via le streaming audio sur le site www.voinews.id/french.
Yeah.
Depuis Jakarta, RRI World Service, la voix de l'Indonésie. RRI World Service, la voix de l'Indonésie, est le service international de RRI. Nous diffusons tous les jours à travers les ondes courtes sur 9525 kHz par le site www.voinews.id/french ou par l'application RRI Play. RRI World Service, la voix de l'Indonésie, informing, connecting, dignifying.
Semua pertanyaanku, mestinya ku marah, malah ku terlihat berat.
Merci d'avoir écouté les programmes en français de RRI World Service, la voix de l'Indonésie.
Suivez nos émissions tous les jours sur les ondes courtes de 9525 kHz. Envoyez-nous vos critiques et suggestions à RRI World Service, la voix de l'Indonésie, RRI, au 4e étage, Jalan Medan Merdeka Barat, numéro 4-5, Jakarta, 10110 ou PO Box 1157, Jakarta. Vous pouvez également nous rejoindre sur Facebook, The Voice of Indonesia, et Twitter, @VOIINDONESIA, ou bien Instagram, Voice-of-Indonesia.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Informing, connecting, dignifying.